Chapitre 4. Les objections de Moïse. Première objection, ils ne me croiront pas. Nous sommes encore appelés à nous arrêter au pied du mont Horeb, derrière le désert, pour y voir tout à la fois l'incrédulité de l'homme et la grâce illimitée de Dieu. Et Moïse répondit et dit, « Mais voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, car ils diront, L'Éternel ne t'est point apparu. Qu'il est difficile de vaincre l'incrédulité du cœur de l'homme, et combien celui-ci a de la peine à se confier en Dieu. Que l'homme est lent à faire un pas en avant sur la simple promesse de Dieu. Tout convient à la nature humaine, excepté cela. Le plus faible roseau, pour autant qu'il soit visible pour l'œil de l'homme, est considéré comme plus solide que l'invisible rocher des siècles. Ésaïe 26, verset 4. Nous aurions pu penser que Moïse en avait vu et entendu assez pour mettre fin à toutes ses craintes, le feu consumant dans le buisson qui ne se consumait pas, la grâce dans toute sa condescendance, les grands et précieux titres de Dieu, la mission divine, la certitude de la présence divine, toutes ces choses auraient dû étouffer la crainte et communiquer au cœur de Moïse une ferme assurance. Cependant, celui-ci soulève encore des questions, et Dieu lui répond encore. Chaque question vient mettre en évidence une nouvelle grâce de Dieu. Et l'Éternel lui dit, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Et il dit, « Une verge. » Verset 2. L'Éternel voulait prendre Moïse tel qu'il était, et se servir de ce qu'il avait dans sa main. La verge avec laquelle Moïse avait conduit les brebis de Jéthro allait être employé pour châtier le pays d'Égypte, pour délivrer le peuple de Dieu et lui frayer un chemin au travers de la mer, et pour faire couler l'eau du rocher afin de rafraîchir Israël altéré dans le désert. Dieu se sert des instruments les plus faibles pour accomplir ses plus glorieux desseins. Une verge, une corne, Josué 6, verset 5, un gâteau de pain d'orge, Juges 7, verset 13, une cruche d'eau, 1 roi 19, verset 6, une fronde de berger, 1 Samuel 17, verset 50, tout peut servir dans la main de Dieu à l'accomplissement de l'œuvre qu'il s'est proposée. Les hommes s'imaginent que l'on ne peut arriver à de grandes fins que par de grands moyens, mais telles ne sont pas les voies de Dieu. Il se sert d'un verre, aussi bien que d'un soleil brûlant, d'un quiquajon, aussi bien que d'un douvant d'Orient. Jonas 4. Mais Moïse avait une importante leçon à apprendre, tant à l'égard de la verge qu'à l'égard de la main qui devait s'en servir. Il avait à apprendre, et le peuple avait à être convaincu. Et Dieu dit, « Jette-la à terre. » Et il la jeta à terre, et elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Et il étendit sa main, il le saisit, et il devint une verge dans sa main. Afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. Versets 3 à 5. La verge devint un serpent, en sorte que Moïse s'enfuit de devant lui. Mais sur l'ordre de l'Éternel, il prit le serpent par la queue, et celui-ci devint une verge. Cette figure exprime la victoire sur la puissance de Satan. Le serpent est entièrement sous la puissance de Christ, et quand il sera parvenu à la dernière limite de sa carrière insensée, il sera précipité dans l'étang de feu pour y recueillir, pendant l'éternité, les fruits de son œuvre. Le serpent ancien, l'accusateur et l'adversaire, sera éternellement terrassé sous la verge de loin de Dieu. Apocalypse 12, versets 9 et 10. Et l'Éternel lui dit encore, « Mets maintenant ta main dans ton sein. » Et il mit sa main dans son sein, et il la retira, et voici sa main était lépreuse, blanche comme neige. Et il dit, « Remets ta main dans ton sein. » Et il remit sa main dans son sein, et il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Versets 6 et 7. La main couverte de lèpre et la purification de cette lèpre représentent l'effet moral du péché et la manière dont le péché a été ôté par l'œuvre parfaite de Christ. Mise dans le sein, la main nette devient lépreuse, et la main lépreuse devient nette. La lèpre est le type bien connu du péché. Or le péché est entré par le premier homme, et il a été ôté par le second. La mort est par l'homme, et c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, verset 21. La chute vint par l'homme, et par l'homme la rédemption. Par l'homme vint l'offense, et par l'homme le pardon. Par l'homme vint le péché, et par l'homme la justice. Par l'homme la mort vint dans le monde, et par l'homme la mort fut abolie, et la vie, la justice et la gloire furent introduites. Ainsi, non seulement le serpent lui-même sera vaincu et confondu, mais encore toute trace de son œuvre abominable sera entièrement effacée par le sacrifice expiatoire de Christ. Il a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Et il arrivera que, s'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la verseras sur le sec. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur le sec. Verset 9. Nous apprenons, par cette figure expressive et solennelle, quelles conséquences entraîne le refus de la soumission au témoignage divin. Ce signe ne devait être opéré que dans le cas où les deux précédents auraient été rejetés. Il devait être d'abord un signe pour Israël, ensuite une plaie pour l'Égypte. Voir Exode 7, verset 17. Seconde objection, je ne suis pas un homme éloquent. Cependant, le cœur de Moïse n'est pas encore satisfait. Et Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme éloquent, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue pesante. » Verset 10. Quelle affreuse lâcheté! Il fallait bien la patience de l'Éternel pour la supporter. Quand Dieu lui-même lui disait « Je serai avec toi », ne lui donnait-il pas l'infaillible garantie que rien de tout ce dont il pourrait avoir besoin ne lui manquerait? S'il avait besoin d'une langue éloquente, « Je suis », n'était-il pas avec lui? Éloquence, sagesse, pouvoir, énergie, tout n'était-il pas renfermé dans ce trésor inépuisable? Et l'Éternel lui dit « Qui est-ce qui a donné une bouche à l'homme? Ou qui a fait le muet ou le sourd ou le voyant ou l'aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et maintenant va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu diras. » Versets 11 et 12. Grâce parfaite, incomparable, grâce digne de Dieu. Il n'y a personne qui soit comme l'Éternel notre Dieu, dont la grâce patiente surmonte toutes nos difficultés et suffit à tous nos besoins et à toutes nos faiblesses. Hélas, les raisonnements de nos cœurs charnels sont difficiles à renverser. Ils reviennent continuellement, troublant notre paix et déshonorant celui qui se présente à nos âmes dans sa plénitude essentielle, afin que nous puisions de cette plénitude selon nos besoins. Il est bon de nous rappeler que, quand le Seigneur est avec nous, nos infirmités deviennent pour lui une occasion de déployer sa grâce et sa patience. Si Moïse s'en était souvenu, son manque d'éloquence ne l'aurait pas inquiété. L'apôtre Paul apprit à dire « Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. » 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Ce langage est assurément celui de quelqu'un qui était avancé à l'école de Dieu. C'est l'expérience d'un homme qui se serait peu tourmenté de ne pas posséder une langue éloquente parce qu'il avait trouvé, dans la précieuse grâce du Seigneur Jésus, une réponse à tous ses besoins. La connaissance de la grâce divine aurait dû délivrer Moïse de la défiance et de la timidité excessive qui le dominaient. L'assurance que le Seigneur lui avait donnée d'être avec sa bouche aurait dû le tranquilliser pour ce qui était de l'éloquence. Celui qui a fait la bouche de l'homme pouvait, si besoin était, la remplir de l'éloquence la plus puissante. Pour la foi, ceci est bien simple. Mais, hélas, le pauvre cœur incrédule compte infiniment plus sur une langue éloquente que sur celui qui l'a créée. Ce fait nous paraît inexplicable si nous oublions ce qu'est le cœur naturel. Ce cœur ne peut pas se confier en Dieu. C'est ce que l'on découvre même chez les enfants de Dieu quand ils se laissent dominer par leur nature. Moïse refuse sa mission. Ainsi, Moïse continue encore à hésiter. Et il dit, « Ah, Seigneur, envoie, je te prie, par celui que tu enverras. » Verset 13. C'était, de fait, refuser le glorieux privilège d'être le messager de l'Éternel à Israël et à l'Égypte. Nous savons tous que l'humilité que Dieu produit est une grâce inestimable. « Soyez revêtus d'humilité » est un précepte divin. Mais refuser de prendre la place que Dieu nous assigne ou de suivre le chemin qu'il nous trace n'est pas de l'humilité. Chez Moïse, évidemment, ce qui le retenait n'était pas de l'humilité, car la colère de l'Éternel s'embrasa contre lui. C'était même davantage que de la faiblesse seulement. Aussi longtemps que ce sentiment revêtait les apparences de la timidité, quelque répréhensible qu'elle soit d'ailleurs, Dieu, dans sa grâce infinie, le supporta et répondit par des promesses réitérées. Mais quand il prit un caractère d'incrédulité, la juste colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Alors, au lieu d'être le seul instrument dans l'œuvre de la délivrance d'Israël, il dut partager ce privilège avec un autre. La fausse humilité déshonore Dieu. Quand, sous prétexte que nous manquons de certaines qualifications, nous refusons de prendre la place que Dieu nous assigne, ce n'est pas de l'humilité. En effet, cela implique que, si nous pensions posséder ces qualifications, nous estimerions pouvoir prétendre à cette place. Si Moïse avait possédé le degré d'éloquence qu'il croyait nécessaire à l'accomplissement de son ministère, nous avons lieu de croire qu'il n'aurait pas hésité à obéir à l'appel de Dieu. Mais quel est le degré d'éloquence qu'il lui aurait fallu? La réponse à cette question, c'est que, sans Dieu, aucun degré d'éloquence humaine ne pouvait suffire, tandis que, avec Dieu, le moins éloquent des hommes pouvait être un ministre puissant. C'est là une grande vérité pratique. L'incrédulité est de l'orgueil et non de l'humilité. Elle refuse de croire Dieu parce qu'elle ne trouve pas dans le moi une raison de croire. Si, à cause de quelque chose en moi, je refuse de croire quand Dieu parle, je le fais menteur. 1 Jean 5, verset 10. Si, quand Dieu déclare son amour, je refuse de croire, pour la raison que je ne m'estime pas assez digne de cet amour, je fais Dieu menteur, et je manifeste l'orgueil inhérent à mon cœur. La pensée que je pourrais mériter autre chose que l'enfer serait la preuve chez moi d'une profonde ignorance de ma condition et de ce que Dieu requiert de moi. Refuser de prendre la place qui m'est assignée par l'amour rédempteur en vertu de l'expiation accomplie par Christ, c'est faire Dieu menteur et déshonorer le sacrifice de la croix. L'amour de Dieu se déverse spontanément. Ce ne sont pas mes mérites qui l'attirent, mais ma misère. Ce n'est pas de la place que moi je mérite qu'il est question, mais de celle que Christ mérite. Christ prit sur la croix la place du pécheur, afin que le pécheur puisse prendre place avec lui dans la gloire. Christ porta ce que le pécheur mérite, afin que celui-ci puisse posséder ce que Christ mérite. Le « moi » est ainsi complètement mis de côté, et c'est là la vraie humilité. Nul ne peut être vraiment humble avant d'avoir atteint le côté céleste de la croix. Mais là, il trouve la vie, la justice et la faveur divine. Alors on en a fini avec soi-même. On n'espère plus trouver du bien et de la justice en soi, et on se nourrit des trésors d'un autre. Non point à nous, ô Éternel, non point à nous, mais à ton nom donne gloire. Psaume 115, verset 1. Il serait inconvenant de nous appesantir sur les erreurs et les infirmités d'un serviteur aussi honoré de Dieu que le fut Moïse, au sujet duquel nous lisons qu'il a été fidèle dans toute sa maison. Hébreux 3, verset 5. Mais si nous ne devons pas nous arrêter sur ces infirmités dans un esprit de propre satisfaction, comme si, dans les mêmes circonstances, nous aurions fait mieux, nous devons néanmoins chercher à retirer de l'Écriture les leçons qu'elle a pour but de nous donner. Nous devrions apprendre à nous juger nous-mêmes et à nous confier réellement en Dieu, à mettre de côté le moi, afin que Dieu puisse agir en nous, par nous et pour nous. Là est le vrai secret de la puissance. Un compagnon de service. Moïse se priva par sa faute du privilège d'être le seul instrument de l'Éternel dans l'œuvre glorieuse qu'il allait accomplir. Mais ce n'est pas tout. La colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse et il lui dit « Aaron, le Lévite, n'est-il pas ton frère ? Je sais qu'il parlera très bien. Et aussi le voici qui sera ta rencontre, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous ferez, et il parlera pour toi au peuple, et il arrivera qu'il te sera en la place de bouche, et toi, tu lui seras en la place de Dieu. Et tu prendras dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. » Versets 14 à 17. Nous avons vu les craintes et les doutes de Moïse, malgré toutes les promesses et toutes les assurances qu'il recevait de la grâce divine. Et maintenant, bien que Moïse n'ait gagné ainsi aucune puissance réelle, bien qu'il n'y ait eu ni plus de vertu, ni plus de pouvoir dans la bouche d'Aaron que dans la sienne, bien que ce soit lui qui, après tout, doive parler à Aaron, nous le voyons prêt à partir dès qu'il peut compter sur la présence et la coopération d'un mortel, pauvre et faible comme lui-même. Cher lecteur, ceci n'est-il pas un miroir fidèle dans lequel se reflètent votre cœur et le mien ? Nous sommes disposés à nous confier plutôt en toute autre chose qu'en Dieu. Appuyés et protégés par un mortel semblable à nous, nous allons hardiment et sans crainte en avant. Mais si nous devons aller seuls, nous tremblons, nous hésitons, nous doutons, alors même que nous avons la faveur du Maître pour nous encourager et la force de son bras tout-puissant pour nous soutenir. Ceci devrait nous humilier profondément devant le Seigneur et nous faire chercher à le connaître mieux, afin que nous sachions nous confier davantage en lui et marcher en avant d'un pas plus ferme, parce que nous l'avons lui seul pour ressource. La compagnie d'un frère est sans doute très précieuse. Deux valent mieux qu'un. Ecclésiaste 4, verset 9. Soit pour le travail, soit pour le repos, soit pour le combat. Le Seigneur Jésus envoya ses disciples deux à deux. Marc 6, verset 7. Car l'union vaut toujours mieux que l'isolement. Toutefois, si notre connaissance personnelle de Dieu et notre expérience de sa présence ne sont pas telles que nous puissions, s'il le faut, marcher seuls, la présence d'un frère nous sera peu utile. Il est remarquable qu'Aaron, dont la compagnie semblait avoir satisfait Moïse, fut celui qui plus tard fit le veau d'or. Exode 32, verset 21. Il arrive fréquemment que la personne dont la présence nous semblait nécessaire devient par la suite une source de profond chagrin pour nos cœurs. Retour de Moïse en Égypte. La circoncision. Quoi qu'il en soit, Moïse consent enfin à obéir. Mais avant d'être complètement préparé pour l'œuvre à laquelle il est appelé, il faut qu'il passe encore par un autre exercice douloureux. Il faut que Dieu imprime sur sa nature la sentence de mort. Moïse avait appris d'importantes leçons derrière le désert. Il est appelé à en apprendre une plus importante encore, en chemin dans le caravansérail. Verset 24. C'est une chose sérieuse que d'être le serviteur du Seigneur. Il faut que la chair soit mortifiée et maintenue dans cette position de mort. Nous-mêmes, nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 1, verset 9. Tout serviteur, pour être béni dans son service, doit apprendre quelque chose de ce que c'est que d'avoir en lui-même la sentence de mort. Moïse dut passer par ce chemin avant d'être moralement qualifié pour sa mission. Il allait faire entendre au Pharaon ce message solennel. « Ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né. » Versets 22 et 23. Tel était le message que Moïse devait délivrer au Pharaon. Message de mort et de jugement. Tandis que, pour Israël, Il avait un message de vie et de salut. Toutefois, celui qui veut parler de la part de Dieu, de mort et de jugement, ou de vie et de salut, doit réaliser premièrement dans sa propre âme la puissance de ces choses. Tout au commencement de son histoire, Moïse nous apparaît, en figure, comme couché dans la mort. Mais c'était là autre chose que d'entrer dans l'expérience personnelle de la mort. C'est pourquoi nous lisons « Et il arriva en chemin dans le caravansérail que l'Éternel vint contre lui et chercha à le faire mourir. » Et Séphora prit une pierre tranchante et coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit « Certes, tu mets un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. Alors elle dit « Époux de sang, à cause de la circoncision. » Versets 24 à 26. Ce passage nous initie à un secret de la vie de famille de Moïse. Jusqu'à ce moment, le cœur de Séphora avait reculé devant l'application de la pierre tranchante à son fils. Elle avait évité la marque qui devait être imprimée dans la chair de tous ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu. Elle ne savait pas que sa relation avec Moïse était une relation qui impliquait la mort à l'homme naturel. Pour ainsi dire, elle reculait devant la croix. Moïse avait cédé devant elle dans cette affaire, et cela explique la scène mystérieuse au caravansérail. Mais si Séphora refuse de circoncire son fils, l'Éternel mettra la main sur son mari. Et si Moïse ménage les sentiments de sa femme, l'Éternel cherchera à le tuer. La sentence de mort doit être écrite sur la chair. Et si nous cherchons à nous y soustraire d'un côté, nous la rencontrerons d'un autre. La position chrétienne. Étant crucifié avec Christ, il faut que nous soyons rendus conformes à sa mort, que nous mortifions nos membres qui sont sur la terre, que nous prenions chaque jour notre croix et que nous le suivions. Notre relation avec Christ est fondée sur le sang, et la manifestation de la puissance de cette relation implique nécessairement la mort. Et vous êtes accompli en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité, en qui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, dans le dépouillement du corps de la chair par la circoncision du Christ, étant enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Colossiens 2, versets 10 à 12. Telle est la doctrine relative à la position du chrétien, doctrine pleine des privilèges les plus glorieux, rémission entière des péchés, justice, acceptation complète, sécurité éternelle, parfaite communion avec Christ dans toute sa gloire. Vous êtes accompli en lui. Que pourrait-on ajouter à celui qui est accompli ? La philosophie, l'enseignement des hommes, les éléments du monde ? Le manger ou le boire, les jours de fête, les nouvelles lunes et les sabbats ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ceci ou cela ? Les commandements et les enseignements des hommes ? Les jours, les mois, les temps et les années ? Voyez Colossiens 2. Aucune de ces choses pourrait-elle ajouter quoi que ce soit à celui que Dieu a déclaré accompli ? Nous ne devons pas envisager cet état de perfection comme quelque chose que le chrétien est encore à atteindre, après quoi ils doivent tendre avec persévérance, sans que, jusqu'à l'heure du jugement, ils puissent être jamais sûrs de le posséder. Cette perfection est la part de l'enfant de Dieu le plus faible et le moins instruit. Tous les croyants sont compris dans le « vous » de l'apôtre. Ils sont tous accomplis en Christ. Paul ne dit pas « vous serez ». Peut-être êtes-vous. Espérez que vous serez. Priez pour que vous soyez. Mais, par le Saint-Esprit, il déclare de la manière la plus absolue « vous êtes accompli ». C'est là le vrai point de départ pour le chrétien, et c'est tout renversé que de prendre pour but ce dont Dieu a fait le point de départ. Mais, dira-t-on, n'avons-nous donc point de péché, point de défaut, point d'imperfection ? Certainement nous en avons. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean 1, verset 8. Nous avons du péché en nous, mais non pas sur nous. De plus, devant Dieu, nous ne sommes pas dans le moi, mais en Christ. C'est en lui que nous sommes accomplis, Dieu voit le croyant en Christ, avec Christ et comme Christ. C'est là notre condition immuable et notre éternelle position comme chrétien. Le dépouillement du corps de la chair a été effectué par la circoncision du Christ. Colossiens 2, verset 11. Le croyant n'est pas dans la chair. Romains 7, verset 5 et 8, verset 9. Bien que la chair soit en lui, il est uni à Christ dans la puissance d'une vie nouvelle et éternelle, et cette vie est inséparablement liée à la justice divine dans laquelle il est établi devant Dieu. Le Seigneur Jésus a ôté tout ce qui était contre le croyant et l'a approché de Dieu, l'introduisant devant lui dans la faveur dont il jouit lui-même. En un mot, Christ est notre justice. 1 Corinthiens 1, verset 30, 2 Corinthiens 5, verset 21. Ceci met fin à toutes les questions, répond à toutes les objections, impose silence à tous les doutes. Car, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, sont tous d'un. Hébreux 2, verset 11. Moïse et Aaron. Nous allons maintenant quitter le désert, pour un temps, mais nous n'oublierons pas les grandes leçons que nous y avons apprises et qui sont si essentielles pour tout serviteur du Christ. Tous ceux qui veulent servir et être bénis dans leur service, soit dans l'œuvre de l'évangélisation, soit dans les divers ministères de l'Église, qui est la maison de Dieu, auront besoin de revenir toujours aux instructions que Moïse reçut au pied du mont Horeb et, en chemin, dans le caravansérail. Si l'on donnait à ces choses l'attention qu'elles méritent, on ne verrait pas tant de croyants courir sans être envoyés. On n'en verrait pas tant se lancer dans les ministères auxquels ils n'ont jamais été destinés. Il faut que tous ceux qui veulent ou prêcher, ou enseigner, ou exhorter, ou exercer un quelque autre ministère, s'examinent soigneusement pour savoir si, véritablement, ils ont été préparés, enseignés et envoyés par Dieu. Sans cela, leur œuvre ne sera ni reconnue de Dieu, ni bénie pour les hommes, et plus vite ils se retireront, mieux cela vaudra. Et l'Éternel dit à Aaron, « Va à la rencontre de Moïse, au désert. » Et il alla et le rencontra en la montagne de Dieu et le baisa. Et Moïse raconta à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait commandés. Versets 27 et 28. Cette belle scène d'union et d'amour fraternel est en contraste avec plusieurs de celles qui, par la suite, se passèrent entre ces deux hommes dans leur pèlerinage au travers du désert. 40 années de vie dans le désert peuvent bien amener de grands changements dans les hommes et dans les choses. La tromperie, la corruption et l'hypocrisie qui y règnent tendent à détruire la confiance du cœur et à engendrer des dispositions soupçonneuses. Hélas, des années d'expérience n'ont souvent amené que ce triste résultat. Mais qui a jamais connu les profondeurs et les ruses du cœur humain comme Jésus les a connues? Il connaissait tous les hommes et il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Il connaissait si bien l'homme qu'il ne pouvait pas se fier à lui. Jean 2, versets 24 et 25. Et malgré cela, qui fut jamais aussi plein de grâce que lui? Aussi aimant, aussi tendre, aussi compatissant. Avec un cœur qui comprenait chacun, il pouvait sympathiser pour chacun. Il ne se laissa pas tenir loin de la misère des hommes par la connaissance parfaite qu'il avait de leur iniquité. Il passait de lieu en lieu faisant du bien. Pourquoi? Était-ce parce qu'il s'imaginait que tous ceux qui se pressaient autour de lui étaient sincères? Non. Mais parce que Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. Voilà l'exemple que Dieu nous propose. Suivons-le, même si, en le suivant, nous devons à chaque pas de la route fouler aux pieds le moi et tous ses intérêts. Nous n'avons pas à désirer cette sagesse, cette connaissance de la nature humaine et cette expérience qui ne font que porter les hommes à se renfermer dans l'égoïsme et à regarder tout le monde d'un œil défiant. Dieu donne la sagesse, mais ce n'est pas une sagesse qui ferme le cœur aux appels du besoin et de la misère de l'homme. Il nous donne une connaissance de la nature humaine, mais ce n'est pas une connaissance qui développe notre égoïsme. Il donne de l'expérience, mais ce n'est pas une expérience qui nous amène à nous défier de tout le monde excepté de nous-mêmes. Si nous marchons sur les traces du Seigneur Jésus, si nous nous pénétrons de son esprit et que nous le manifestions, alors, traversant le monde avec la connaissance de ce qu'il est, ayant des rapports avec les hommes, tout en sachant ce que nous avons à attendre d'eux, nous pouvons manifester Christ au milieu de toute cette scène. Les motifs qui nous font agir sont tous en haut, là où est Christ. C'est là aussi que le cœur de Moïse trouvait la grâce et la force qui l'ont conduit à travers les scènes pénibles de la vie dans le désert. Et nous pouvons sans crainte de nous tromper affirmer qu'à la fin, malgré les épreuves et les luttes de 40 années, Moïse pouvait embrasser son frère sur la montagne de Hor avec la même affection que lorsqu'il l'avait rencontré au commencement à la montagne de Dieu. Ces deux rencontres eurent lieu, il est vrai, dans des circonstances bien différentes. À la montagne de Dieu, les deux frères se rencontrèrent, s'embrassèrent et se mirent ensemble en chemin pour accomplir leur mission divine. Sur la montagne de Hor, ils se rencontrèrent par le commandement de l'Éternel, Nombre 20, verset 25, pour que Moïse dépouille son frère de ses vêtements sacerdotaux et le voie recueilli vers ses pères, à cause d'une faute à laquelle il avait lui-même participé. Les circonstances changent, les hommes peuvent se détourner l'un de l'autre, mais en Dieu, il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. Jacques 1, verset 17. Et Moïse et Aaron allèrent et assemblèrent tous les anciens des fils d'Israël, et Aaron dit toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et fit les signes devant les yeux du peuple. Et le peuple crut, et ils apprirent que l'Éternel avait visité les fils d'Israël, et qu'il avait vu leur affliction, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Versets 29 à 31. Quand Dieu intervient, toutes les barrières tombent. Moïse avait dit, « Ils ne me croiront point ». Cependant, il ne s'agissait pas de savoir s'il le croirait, lui, mais s'il croirait Dieu. Celui qui sait qu'il est envoyé de Dieu peut aussi être parfaitement tranquille pour ce qui regarde la réception de son message. Cette assurance bienheureuse ne le détourne en aucune manière de sa sollicitude à l'égard de ceux auxquels il s'adresse. Bien au contraire, mais elle le préserve de cette inquiétude d'esprit qui ne peut que contribuer à rendre un homme impropre à porter un témoignage ferme, élevé et persévérant. Un envoyé de Dieu devrait toujours se souvenir que le message qu'il porte est le message de Dieu. Quand Zacharie dit à l'ange « Comment connaîtrais-je cela ?» Ce dernier fut-il troublé par cette question ? Nullement, mais il répondit « Moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. » Luc 1, versets 18 et 19. Les doutes de l'homme ne troublent pas chez l'ange le sentiment de la dignité de son message. Comment, semble-t-il dire, peux-tu douter quand, de la salle du trône de la majesté dans les cieux, un messager t'a été maintenant envoyé? C'est ainsi que tout messager de Dieu, selon sa mesure, devrait aller, et dans cet esprit qu'il devrait délivrer son message.